Avec Chrysalide après leur concert au studio RMS, bonsoir.
Salut.
Salut.
Alors, les impressions à chaud.
Super cool. Génial. Des fois, comme quoi 40 personnes peuvent en valoir 200, donc voilà, c'était super.
Ouais, vraiment, c'était l'endroit, c'était le moment, c'était. Enfin, voilà, c'était inoubliable, quoi, enfin, pour moi. Ce soir, c'était mon rêve qui s'est réalisé, presque.
Fin d'une mini tournée, c'était éprouvant ça.
Ouais, c'est toujours un peu fatigant parce qu'on a quand même fait 2500 bornes en 3 jours et eux, il leur en reste encore 1000 à faire quoi, enfin, un peu moins, mais ouais, sinon ça va. On commence un petit peu à avoir l'habitude d'enchaîner les dates, donc du coup ça va, c'était ok.
L'actualité de Chrysalide à part cette mini tournée qui se termine.
Alors, on bosse sur le nouvel album en ce moment, là. On a déjà quelques titres qui avancent bien. On espère le sortir avant la fin de l'année. L'idéal, ce serait pour le festival qu'on organise au Neuchâtel, là, donc pour septembre. Ça va être un petit peu différent, toujours très massif, pas comme on le fait d'habitude, mais ça va être un petit peu plus clair, un peu plus mélodique, je pense, sur le début, quoi. Beaucoup de basses et tout ça. Et puis, on a encore quelques dates à faire avant la rentrée, notamment quelques dates avec Atari Teenage Riot pour leur reformation, là. Donc, on attend ça avec impatience aussi.
Au niveau de la composition, comment ça se passe? Parce que vous êtes un peu éloigné géographiquement, donc c'est beaucoup de chacun devant son ordinateur.
Bah en fait, moi, j'habite à Strasbourg, donc comme Arnaud. Donc, on travaille ensemble. Bah, on envoie beaucoup de travail à Sylvain en fait qui est à Tours. Ça va, c'est assez cohérent. Sylvain vient souvent à Strasbourg pour enregistrer, pour travailler des nouvelles compos, à gérer, c'est vraiment, il y a aucun problème. Je pense que ça se passe plutôt bien. Après la composition, c'est vraiment on s'y met à trois, dès que quelqu'un a une idée, on la partage et on la fait évoluer, voilà.
Ouais, et puis c'est surtout Johan et Arnaud qui bossent sur tout ce qui est son et technique et tout ça. Puis moi, j'ai rajouté un peu les textes, le concept et tout ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment un travail triangulaire et vachement équilibré entre les trois, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Et comme Johan nous a rejoint depuis un petit peu moins d'un an maintenant, ça se passe super bien, quoi. Il a pas du tout... On avait un peu peur au début de casser le binôme, quoi, et au contraire, justement, ça a créé ce fameux triangle qui fonctionne encore mieux qu'avant, quand on était juste en binôme, quoi. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Ça se passe super bien.
Au niveau des machines, c'est du sample d'instruments que vous jouez, que vous enregistrez, ou c'est que du sample de sons repiqués à droite à gauche, ou créés en direct?
Dans la composition même des morceaux, c'est vraiment de la sculpture de samples. Donc dès qu'on regarde un film, dès qu'on écoute un disque, dès qu'il y a un son qui nous touche, forcément ça va nous inspirer, on va le récupérer, on va le travailler à notre façon, on va le sculpter. Et en fait, finalement, on va se retrouver avec une alchimie de sons qui nous touche, donc ça va créer une fusion en fait qui est pour moi, à mon sens, et je pense pour tout le monde en fait, très importante, quoi. C'est vraiment le sampling, c'est vraiment pour moi un travail hyper intéressant, hyper créatif en fait, parce qu'on a le résultat quasiment instantanément. C'est spontané, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'avantages avec cette méthode. Et sur scène, on envoie les samples qu'on a travaillé en amont, et puis moi je m'occupe de travailler les effets aussi des voix, de plusieurs choses. On fait de la bidouille un petit peu en temps réel sur scène, quoi, pour créer un peu le chaos, un chaos volontaire.
Il y a aussi un petit peu quand même beaucoup, énormément de sampling, mais là pour le nouvel album, contrairement au précédent, de la vraie compo aussi, avec notamment les synthés que Johan a ramené, parce qu'il nous a ramené des beaux synthés analogiques qui font des beaux bruits, des vrais sons tout ronds et tout ça. Et Arnaud compose aussi de plus en plus tout ce qui est piano, il le faisait déjà avant, mais il l'assumait pas toujours, parce que là, il l'assume de plus en plus, et on pense déjà peut-être éventuellement à peut-être ajouter quelques instrus, de vrais instrus sur scène où Arnaud pourrait jouer, notamment surtout le piano, parce que c'est ce qu'il maîtrise le mieux, quoi. Donc c'est vrai que c'est 90% de sampling, mais il reste 10% de vraie émulation, quoi, sonore, quoi.
Ça va être le but dans le futur, je pense, pour le nouvel album, justement, ça va être l'apport, contrairement à l'ancien album, enfin au premier, Lost in Lost World, ça va être vraiment, je pense, enfin pour moi, je pense, l'apport de cet album, ça va être la synthèse, la vraie synthèse, en fait, qui va apporter une dimension chaleureuse, un son chaud, un son massif, encore plus massif qu'avant. Et donc voilà, c'est vraiment vers ça qu'on veut se tourner aujourd'hui.
De quoi parlent les textes ?
Notre phrase pour exprimer de quoi on parle en général, on dit toujours « n'ayez pas peur », on parle de la vie. Donc en règle générale, on parle de ce qui nous entoure de façon... Il y a une vraie réaction par rapport au monde qui nous entoure. Alors bon, ça pourrait paraître un petit peu banal de dire ça pour tout ce qui est mouvement un peu alternatif et contestataire, mais c'est vrai, quoi. C'est, on essaie de... Le rapport entre l'humain et la technologie qui est de plus en plus important, le rapport entre l'humain et l'administratif aussi, le rapport entre... l'humain et l'humain aussi, c'est vrai, c'est quelque chose comme ça. Après, on parle pas beaucoup de nous-mêmes, on parle vraiment de nos réactions face à ce qu'on voit régulièrement. Alors ça peut être sur nos vies à nous, mais c'est aussi sur les vies des gens qui nous entourent, et de ce qu'on voit dans les informations, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut... Mais oui, c'est vrai que ça parle essentiellement d'une réaction face au monde qui nous entoure, quoi. Et plutôt... une critique en général. C'est vrai qu'on n'est pas très bien inséré dans ce système tel qu'il est, quoi.
Sur l'imagerie, vous arrivez sur scène avec c'est quoi, c'est
du charbon.
Voilà.
Bah c'est l'image, c'est les costumes, cravates, enfin déjà les cravates on n'en a jamais porté de notre vie sauf sur scène. Et je refuse d'en mettre une, hein, même quand je vais à un mariage ou à un enterrement ou je sais pas quoi, je refuse d'en mettre une. Mais voilà, cette image de l'homme d'affaires décadent, en fait, quoi. C'est ça qu'on veut un peu représenter. Et oui, et puis le côté un peu sale aussi, parce que c'est vrai que, en général, les gens qui jouent sur scène ont plutôt tendance à se faire beau, quoi, à se maquiller, à mettre leurs plus beaux vêtements, tout ça. Nous, on fait l'inverse, quoi. On met vraiment les trucs les plus dégueulasses, on met les fringues les plus crades qu'on a, et on essaie d'être le plus crade possible avant de monter sur scène, quoi. Donc, voilà. Puis ça fait aussi ressortir les yeux, et comme on croit vachement pas au pouvoir des yeux, mais au langage des yeux. Moi, c'est quelque chose qui me touche vachement. Je trouve qu'on, assez vite, dans les yeux de quelqu'un, on peut vite deviner s'il y a un bon feeling ou un mauvais feeling. Et donc, nous, en se noircissant le visage comme ça, ça fait ressortir les yeux. Et comme ça, les gens captent tout de suite directement le regard. Et une interaction plus rapide, quoi.
Mais par rapport au charbon, justement, au noir, en fait, qui représente pour moi... justement la saleté qu'on peut être en dessous d'un costume, en fait. C'est, je pense que ça, c'est vachement important de le dire, c'est que c'est pas juste pour faire... Enfin, moi, je pense que c'est pas juste pour faire les crados, c'est aussi pour montrer que bah, à quel point, sous un costard-cravate, on peut être sale et on peut être démoniaque.
Est-ce qu'il y a un titre que vous aimez particulièrement jouer sur scène ?
Il y en a plusieurs, mais moi celui que j'aime vraiment particulièrement, c'est le morceau qu'on joue depuis le plus longtemps, c'est Noise Gaia, ouais, qui est entre guillemets le tube, hein, si on peut appeler ça un tube pour à notre niveau, quoi. Parce que c'est le morceau où partout où on va, tout le monde le connaît, quoi. Tous les gens qu'on a joué en Tchéquie, en Russie ou en France ou en Angleterre, les gens connaissent ce morceau-là, ceux qui nous invitent en tout cas. Donc c'est vraiment, et puis c'est le morceau un peu introductif aussi du gros bordel qu'on vient faire sur scène, quoi. Venez dans la guerre du bruit avec nous. Mais sinon, après, je les aime tous. Moi, c'est vrai que bon, j'ai une affection particulière pour les morceaux plus rentre-dedans, parce que ça a un côté plus physique, et c'est vrai que c'est ce que j'aime le plus sur scène. Mais j'aime bien aussi les morceaux un peu plus calmes, où on est un peu plus tout nu devant les gens, quoi. Et moi, j'aime aussi... Enfin, Je les aime tous en fait. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Donc c'est plus la question là qui pourrait peut-être être plus pertinente dans le sens où. Ouais, enfin, je crois que je les aime tous moi. Mais celui que je préfère vraiment, c'est Noise Guerilla. Ouais. Parce que c'est celui qui nous aide à rentrer dans le set à chaque fois. Quoi, et... Voilà, je sais pas pour toi.
En ce qui me concerne, moi j'ai vraiment une affection pour Freak Out. C'est un morceau qui est sorti sur une compilation qui est pas sur le Steam Most World. Et c'est parce que c'est avant justement d'être dans Chrysalide, j'étais spectateur de Chrysalide et c'est le morceau qui m'a vraiment fait le plus vibrer, c'est le morceau qui m'a fait réaliser à quel point des potes à moi étaient talentueux, à quel point des potes à moi étaient enfin voilà, c'était pour moi c'était exactement ce que j'aime quoi, c'était ça tape vraiment dans les rythmes que j'aime et voilà c'est une espèce de mélange de tout plein d'influences et voilà bon c'est mon petit préféré à moi et puis c'est vrai qu'après bah, comme dit il y en a pas un que j'aime pas, je les aime tous et ils ont tous leur charme, ils ont tous leurs défauts aussi mais ils ont tous leur patate quoi.
Pour retrouver un petit peu de son, le plus simple c'est votre page MySpace.
Ouais, le plus simple c'est MySpace. On peut en trouver aussi sur le site du label audiotrauma.org, mais c'est vrai que MySpace nous permettant d'être plus indépendant et d'être pas toujours à la recherche d'un webmaster et, parce qu'on c'est toujours un peu compliqué de gérer ces trucs là donc c'est vrai que nous on a la totale gestion de notre MySpace quoi. Et c'est là que c'est le plus facile effectivement de trouver. Après en cherchant bien sur tous les sites russes de téléchargement et on peut trouver tout ce qu'on a fait le lendemain de la sortie, donc c'est assez facile au final, je pense, de trouver des morceaux nous en download. Et tant mieux, hein, parce que sans ces morceaux-là, on serait peut-être pas écouté dans certains pays non plus. Quoi. Donc on n'a rien contre le piratage. Ça nous fait pas plus de mal que ça, j'ai l'impression, quoi, pour nous, à notre niveau.
Et je voulais aussi rajouter que, en fait, Audiotrauma, on a donc on a mis en place en fait des sorties digitales. Et donc là, on voulait vraiment ressortir en fait toutes les sorties de Yotrauma, donc Chrysalide, en digital, donc via CD1D. Donc toutes les infos sont sur le MySpace, mais ça c'est pour moi, je pense, un peu le futur du développement dans la musique, c'est le format numérique. Je sais que c'est un peu triste de dire ça, parce que je reste quand même fan du vinyle et je reste quand même fan du CD, mais j'ai peur que ce soit un peu à ça qu'on a à faire. Donc je pense que c'est surtout vers ça qu'on va se tourner dans les prochaines années. Donc tout en continuant à sortir des objets, ça c'est sûr, parce que voilà, on a quand même l'amour de l'objet, mais CD1D, je crois que c'est vraiment une bonne plateforme, et ça va l'être là bientôt pour toutes les sorties Audiotrauma. Donc là, vraiment, on aura de la sortie 001 jusqu'à la... on en est 19, jusqu'à la 19, donc 19 CD qui seront numérisés et qui seront disponibles sur le site cd1d.com.
Un prix très intéressant parce que vu qu'il n'y a plus le support, plus la distribution, plus il reste un petit prix parce qu'on veut quand même essayer d'aider les artistes à produire leurs disques, à les promouvoir aussi, parce que bon, sortir gratuitement c'est bien, mais s'il n'y a pas un peu de promo derrière, c'est écouté par les potes et puis après ça s'arrête là. Donc mais genre à 2, 3, 4 euros maximum, et en MP3 et en FLAC aussi, qui a une qualité quasi équivalente au WAV, donc CD quoi. Donc ça laisse aussi le choix, l'opportunité aux gens de choisir s'ils veulent écouter ça sur leur iPod ou s'ils veulent avoir une bonne qualité pour écouter chez eux tranquillement quoi.
Voilà. Pour terminer nos interviews, on a une question un peu spécial qui est, si on vous donnait le choix, est-ce que vous préféreriez la vie éternelle ou le don d'ubiquité ?
Non, surtout pas la vie éternelle, parce que je pense qu'on aurait moyen de vraiment d'être triste à force. Enfin, je pense que voilà, pour moi, les meilleures choses ont une fin. Et non, je préfère en profiter à fond et crever demain plutôt que d'avoir la vie éternelle, ça c'est sûr. Après, c'était quoi l'autre ?
Ubiquité.
Le don d'ubiquité.
Ah bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ah, sans aucun doute, ouais, bah oui, parce que je suis curieux, donc voilà, enfin, en ce qui me concerne.
Moi, je choisirais bien la vie immortelle, si tous les gens que j'aime l'ont aussi, parce que ça va être chiant de voir mourir sa copine, ses parents, ses potes, un peu comme dans Highlander finalement, hein, où ils voient mourir tous les gens qu'ils aiment, puis ils continuent de vivre, là, ça doit être chiant. Mais si les autres aussi ont cette capacité-là, puisque je pense que finalement, on peut mélanger aussi ce fameux don d'ubiquité avec en étant immortel, puisque on peut finalement aller à tous les endroits si on a une vie mortelle. Donc, quitte à faire, autant vivre longtemps, éternellement et d'aller partout, quoi. Comme ça, au moins, c'est les deux en un, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, j'imagine que le jour où j'aurai des cheveux blancs, je serai tout cassé, j'en aurai peut-être un peu marre, je me dirai, ouais, stop, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai déjà des cheveux blancs,
ouais,
c'est ça. Donc, ouais, voilà, ouais. Moi, plutôt vie éternelle.
Bah, merci.
Ah, bah, c'est bon.
Merci à toi.